Donc, je passe à la suite, donc la structure et les opportunités politiques, ce qui est attendu avec impatience. Alors, là aussi, perplexité de ma part, parce que on change totalement de niveau d'analyse. C'est-à-dire qu'avec Olson, on est centré sur l'individu. Hein, voilà, on est dans une sociologie individualiste, ou en tout cas une économie utilitariste. Hein, mais bon. Alors, la structure des opportunités politiques, comme son nom l'indique, c'est au niveau de la structure des sociétés que ça se joue. Donc, on dépasse même le groupe militant. Bon, ce que cherche à désigner, à expliciter la notion de structure des opportunités politiques, c'est le contexte dans lequel se développent les mouvements sociaux. Alors, c'est une notion qui apparaît dans les années 70, mais qui surtout se développe à partir des années 80. Alors, à partir d'un exemple, voilà, il y a eu un des premiers travaux qui l'ont vraiment utilisé de manière systématique. C'est le bouquin de Doug McAdam, qui n'a pas été traduit, qui s'appelle Political Process and the Development of Black Insurgency. Donc, processus politique. Hein, qui est aussi le terme qui désigne le courant théorique de la structure des opportunités politiques et le développement du mouvement noir. Alors, il s'intéresse donc au mouvement pour les droits civiques, au mouvement noir des États-Unis entre les années 30 et les années 70. Bon. Et si vous voulez, il vient de la. Doug McAdam, à ce moment-là, il vient de la mobilisation des ressources. Donc, cette idée que ce qui est déterminant pour que du mécontentement passe à une dimension collective et publique, c'est la disponibilité de ressources qui soient mobilisées par des organisations. Voilà. Alors qu'il y ait des leaders dans ces organisations, qu'il y ait des permanents, qu'il y ait voilà, des membres par conscience des bénéficiaires, mais qu'il y ait aussi un répertoire d'actions collectives, qu'il y ait une structure administrative, bureaucratique, hein, des permanents, de l'argent pour payer ces gens-là. Bon, donc l'idée d'organisation est centrale. Sauf que l'énigme à laquelle il se confronte, c'est que le mouvement pour les droits civiques se développe à partir des années 50, mais déjà il y avait des organisations qui étaient prêtes à se mobiliser, qui se mobilisaient dans les années 30, mais le mouvement il piétinait, il n'avait aucun écho, voilà, il y avait. Bon, donc la question décisive, ce n'est pas les ressources ni les organisations. Elles existent déjà dans les années 30, mais c'est seulement dans les années 50 qu'elles vont connaître un développement, un succès. Donc il y a une variable supplémentaire qu'il faut prendre en compte, qu'il faut invoquer, qui est donc le contexte. Années 30, années 50, comparons ce qui change entre les deux. Le contexte a changé.
Donc quelque chose qui est extérieur aux mouvements sociaux, mais qui les enrobe d'une certaine manière, c'est le contexte politique.
Alors, l'idée il va formaliser ça théoriquement en disant, dans les années 30, la structure des opportunités politiques était fermée, le système politique américain était sourd aux revendications des Noirs. À partir des années 50, la structure des opportunités politiques est davantage ouverte, le système politique est davantage réceptif, accueillant pour les revendications que les organisations expriment depuis les années 30 au moins. Hein? Ah. Alors, donc voilà, c'est le contexte politique. Alors, dans la structure des opportunités politiques, tel que McAdam l'utilise donc en début des années 80, ben c'est quoi? C'est notamment la crise de la culture du coton dans le sud des États-Unis, où ben, les descendants d'esclaves affranchis ben, continuent à être ouvriers agricoles. Hein, mais en tant que salariés, ils ne sont plus esclaves, mais ils continuent à être employés jusqu'à un moment où. Bon, baisse des cours et puis mécanisation, on n'a plus besoin d'eux. Et donc, il y a une grande migration, début du XXe siècle, des Noirs vers le nord des États-Unis. Ils quittent les États du Sud, les plus ségrégationnistes, et ils vont se faire embaucher dans l'industrie qui recrute dans le nord. Bon. Dans le Nord, il y a du racisme, mais il est moins systématique, moins institutionnalisé que dans le Sud. Alors ça, ça produit un autre effet que McAdam appelle libération cognitive. C'est-à-dire, autant la discrimination, le racisme allait de soi parce qu'ils n'avaient jamais connu que ça dans le Sud, ils arrivent dans le Nord, le racisme est nettement moins prégnant. Ils se disent, bah, finalement, on acceptait sans rien dire les discriminations, et, finalement, elles sont pas naturelles, elles sont pas, on peut les contester. On n'est pas condamné, étant noir, à être victime de la ségrégation. Puisque dans le Nord, c'est moins pire que dans le Sud.
Peut-être que par l'engagement militant, que propose un certain nombre d'organisations, on va pouvoir la combattre.
Bon. Donc, processus de... Alors, c'est quasiment la prise de conscience au sens Lénine. Hein. Voilà, ils étaient aliénés, ils vivaient dans l'ignorance, et leurs yeux s'ouvrent et ils découvrent que... ils vivent dans une situation injuste. Bon. Deuxième facteur qui est associé, c'est que dans le Nord, les Noirs peuvent plus facilement voter. Dans les États du Sud, il y avait souvent des choses qui étaient totalement illégales, mais qui étaient des barrages à inscription sur les listes électorales pour empêcher les Noirs de voter. Ça, j'y reviendrai dans un instant. Là, il n'y a pas d'obstacles au vote des Noirs, mais vu que ils arrivent nombreux, ça devient un électorat potentiel. Un électorat potentiel que le Parti démocrate va entreprendre de séduire, en tout cas dans le Nord. Et le séduire, faut répondre aux exigences, aux attentes de cet électorat qu'on essaye de se constituer. Alors, ce qui est intéressant, c'est juste pour la petite histoire, mais on a l'image des républicains racistes, enfin, on a eu Trump, là, bon, et les démocrates. Hein, on reproduit le clivage droite-gauche, républicain à droite. C'est les républicains qui ont aboli l'esclavage, et dans le Sud, le Parti démocrate était ségrégationniste. Hein, donc, voilà, c'est plus compliqué que... Voilà, c'était la petite... Mais, voilà, le Parti démocrate, avec des gens comme Kennedy, etc., devient progressiste et... se rend réceptif aux revendications de l'électorat noir. Et puis, autre élément qui joue pour cette ouverture de la structure des opportunités politiques, c'est le fait qu'on est dans un contexte de guerre froide et que les États-Unis contestent l'URSS comme État totalitaire en disant « on est le pays de la liberté face au totalitarisme ». Puis les soviétiques disent, ouais, enfin, pays de la liberté, lorsqu'on regarde ce que vous faites aux Noirs dans les États du Sud, la ramenez pas trop, quoi. Donc il y a, voilà, je caricature, hein, de manière vulgaire, mais là, il y a une fragilité dans une compétition internationale du fait du maintien d'un système ségrégationniste. Donc ça rend le système politique américain plus réceptif devant les revendications. Et ça leur donne plus de poids et le mouvement pour les droits civiques obtient des succès, des lois de déségrégation. Jusqu'aux années 70 où, je dirais, le système se referme à nouveau, avec notamment l'arrivée de Nixon au pouvoir, le départ des démocrates... Le contexte devient politiquement beaucoup plus tendu.
C'est la crainte que le mouvement noir devienne de plus en plus gauchiste, avec J. Edgar Hoover qui voit des communistes partout, qui donc une stratégie de tension et de répression du FBI.
Et les formes de la protestation aussi s'en ressentent. C'est-à-dire que autant le système politique, quand il était ouvert, pouviez faire des actions pacifiques, avec toute la tradition de Martin Luther King, du boycott, du sit-in, des marches pacifiques. Quand ça se referme, ça a un effet sur la protestation, c'est le black power. Donc c'est les démonstrations de force.
On passe de la non-violence avec Martin Luther King, qui disparaît, qui est assassiné en 68, on passe au black power. Donc avec les militants qui défilent avec leurs bérets, surtout des flingues, même si c'est pour la montre, mais avec des postures d'intransigeance. Donc ça se referme. Hein. Structurer les opportunités politiques se referme et ça a des effets sur la forme du mouvement.
Voilà, donc la fermeture ou l'ouverture a des effets sur les formes de la protestation. C'est-à-dire, si vous vous affrontez à une structure des opportunités politiques fermée, vous êtes obligé, pour vous faire entendre, d'utiliser des moyens disruptifs, perturbateurs. Si le système politique est ouvert, vous pouvez négocier de manière beaucoup plus pacifique. Alors, ça, je pense que c'est une première illustration qui est assez parlante. Et puis aussi d'une approche de diachronique. C'est-à-dire, vous avez une structure des opportunités politiques dont vous suivez les évolutions au fil du temps. Donc, sur une longue durée, une bonne quarantaine d'années dans le cas de Macadam.
Donc, l'idée de structure des opportunités politiques, hein, telle qu'elle ressort, telle qu'elle est employée par Macadam, qui est un des premiers vraiment à... D'autres l'ont utilisé, cette notion, avant, mais sans vraiment la définir. Là, il y a un usage pour la première fois systématique. Voir comment le destin des mouvements sociaux, mais aussi leur forme, plus ou moins pacifique ou perturbatrice, dépendent du contexte et de la réponse politique aux revendications.
Alors, le problème, c'est que c'est un peu l'auberge espagnole, sa structure des opportunités politiques. C'est-à-dire que vous avez de la géopolitique, de l'économie, des logiques électoralistes. Vous êtes toujours un peu assuré de trouver, après coup, quelque chose qui peut expliquer que le mouvement s'est développé à tel moment, qu'il a été facilité par telle ou telle chose. Bon. Alors, un certain nombre d'auteurs ont essayé de restreindre, resserrer la définition. Ils ont gardé le concept, mais ils ont essayé de le définir plus précisément.
Et donc, on va s'intéresser prioritairement aux éléments proprement politiques. Donc, c'est ce que vont faire notamment Sidney Tarrow et Hans-Peter Kriesi. Donc, deux auteurs. Alors, Kriesi, il est suisse, si mes souvenirs sont bons, et Tarrow, il est américain.
Il y a une concurrence des définitions. Voilà, je ne pense pas que ça soit très, très pertinent de rentrer dans le détail des définitions, mais c'est l'idée des facteurs institutionnels, la configuration des systèmes politiques auxquels s'affrontent des contestataires. Alors, il y a eu une évolution dans l'application du concept qui est, on est passé d'une perspective diachronique, donc celle de Macadam, on étudie un système politique et ses fluctuations sur la durée, à une perspective synchronique, c'est-à-dire on va comparer des pays. On va comparer le mouvement écologiste en Suède, en Suisse, en France, en Allemagne, et voir comment la structure des opportunités politiques influe sur les succès, les formes de la protestation. Alors, notamment en prenant la structure formelle de l'État, le système électoral. Est-ce que vous avez un système proportionnel? Est-ce que, une bipolarisation de la vie politique ou pas? Bon.
Ils vont s'intéresser à la fois à la dynamique du jeu politique. Est-ce qu'il y a, aux États-Unis, vous avez deux partis. Le jeu politique, il est bloqué.
Alors, Tarrow, notamment, il a travaillé sur... sur l'Italie, et il explique le fait que les mouvements sociaux aient été assez violents dans les années 70-80 en Italie, par le fait que la démocratie chrétienne était pivot dans le système politique, donc ça bloquait tout, c'est-à-dire que le système politique était figé.
Vous avez un parti centriste qui, s'il est trop faible sur sa gauche, fait alliance avec la droite. S'il est trop faible sur sa droite, fait alliance avec la gauche. Mais de toute façon, c'est incontournable. Hein, pendant toute l'après-guerre, quasiment, jusqu'à l'arrivée de Berlusconi, vous avez la démocratie chrétienne qui est indéboulonnable, qui est toujours centrale. Bon. Ben, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de se montrer attentive aux revendications qui viennent de la société, hein, pour schématiser. De toute façon, ils sont sûrs de rester au pouvoir. Donc, bah, ces revendications ne trouvent pas de relais dans le champ politique. La structure des opportunités politiques est bloquée. Et donc, bah, pour se faire entendre, les mouvements sociaux doivent user de la perturbation. Donc, ça donne la période de violence politique qu'a connue l'Italie dans les années 70. Vous avez aussi donc, le jeu politique, la structuration du jeu politique, de la concurrence politique entre les partis, et un élément de la structure des opportunités politiques. Et puis, est-ce que vous avez des procédures de consultation de la population qui permettent, là aussi, que les revendications des mouvements sociaux puissent s'exprimer dans l'espace public?
Est-ce que vous avez aussi, est-ce que c'est un système fédéral ou un système centralisé? Bon. Est-ce que vous avez possibilité de référendum d'initiative populaire, pour parler. Voilà. Alors, l'exemple que je prends pour illustrer ça aux étudiants, c'est les anti-OGM en France et en Suisse. En Suisse, vous avez un système de votation. Donc, vous êtes sensible à une cause, vous organisez une pétition. Si vous obtenez suffisamment de signatures, vous pouvez imposer au canton d'organiser une votation, c'est-à-dire un référendum sur la question. Bon. Donc, ça a été fait sur les OGM. La pétition a recueilli suffisamment de voix. Ça a été mis au vote. Et très pacifiquement, on a, dans certains cantons en tout cas, interdit les expérimentations de plantes à OGM. Bon. En France, vous n'avez pas cette possibilité-là, et donc bah, vous avez des formes perturbatrices, c'est-à-dire les faucheurs volontaires, hein, les faucheurs d'OGM, qui font exprès de détruire des parcelles expérimentales. Ils savent que les flics vont venir, qu'ils vont passer en procès, ils vont transformer le procès en tribune, etc. Pourquoi? Ben, parce que le système politique français est réputé fermé. Voilà. Et donc, il n'y a que l'affrontement qui permet de faire exister la cause, de la défendre et de la faire avancer. Voilà. Donc la Suisse serait un pays avec une structure des opportunités politiques ouverte. Et la France, un pays avec une structure des opportunités politiques fermée, typique de l'État centralisateur. Voilà. Donc, bon. Alors, je dirais, ça a été mis un peu à toutes les sauces, structure des opportunités politiques. Ça a été très à la mode dans les années 90, début des années 2000. Bon, avec beaucoup d'études comparatives pour montrer que, ben, effectivement. C'est plus perturbateur et c'est plus réprimé en France qu'en Suisse ou en Suède. Bon, l'idée, générale, c'est le contexte et c'est les institutions. C'est l'ambiguïté aussi, je dirais, d'une certaine manière du concept. C'est le contexte, alors c'est quelque chose qui peut être fluctuant, hein. Le contexte des années 70 n'est pas le même que celui des années 2020, celui des années 30 et des années 70 aux États-Unis pour le mouvement noir. Mais c'est aussi les institutions, la configuration du système politique, la Ve République ou la Première République italienne, ou le système fédéral allemand, ou le système cantonal fédéral suisse.
Peut-être que le plus intéressant, qu'ils aient bien en tête le concept, hein, puisqu'il peut tomber au bac, mais de dire bah, c'est le contexte. C'est-à-dire que les mouvements sociaux, il faut à la fois les étudier en eux-mêmes, dans leur organisation interne, etc., mais ils évoluent dans un contexte politique qui fait que, je sais pas, dans les années 1950, un mouvement homosexuel était plus difficile à mettre en place qu'aujourd'hui, que certaines, pas forcément la meilleure référence, mais celle qui me vient en tête, que dans les années 70, il y avait un mouvement pédophile. Qu'aujourd'hui, et heureusement, ce type de revendication n'est plus entendable. Qu'il y a des effets de contexte historique qui font que certaines revendications peuvent apparaître publiquement, prospérer, se développer, obtenir satisfaction, et que d'autres contextes sont plus défavorables. Alors, je pense que la piste Macadam est la plus intéressante parce qu'elle permet de faire référence à l'histoire. Et elle est moins institutionnelle que les approches Criési-Tarot. Alors, ça peut être intéressant de faire lien avec la dimension institutionnelle, est-ce que. Mais c'est peut-être plus abstrait. Ça, c'est. Voilà, c'est vous qui connaissez le public lycéen, donc peut-être de voir. Mais voilà, le mouvement pour les droits civiques, il est quand même un bel exemple auquel peut-être plus facile d'intéresser les élèves. Alors, une série de critiques ont été adressées par d'autres que moi hein, à ce concept.
L'ambiguïté, c'est, elle se traduit par ce que moi je considère le statisme de la perspective, c'est-à-dire que l'aspect institutionnel est globalement prédominant sur l'aspect contextuel. C'est-à-dire que d'une certaine, c'est très statique, c'est très figé. D'une certaine manière, de toute éternité, la France a été un État centralisé. Enfin, vous pouvez remonter à Louis XIV et faire une espèce de culturalisme. Et le contexte, vous le perdez, justement, en faisant ça. Donc, c'est un petit peu embêtant. Et donc, vous avez des typologies d'État, de systèmes politiques, qui sont. Alors, il y a un sociologue américain critique de cette perspective qui s'appelle James Jasper, Jasper, alors qui a été très peu traduit en français et puis pas ces textes-là, mais qui considère que structurer les opportunités politiques, c'est un oxymore. C'est une contradiction dans les termes. C'est-à-dire, si vous parlez de structure, c'est quelque chose qui est stable, qui est solide, hein, qui est déterminant, qui pèse lourdement sur les conduites, qui est solide, durable. Et puis, opportunité, c'est quelque chose de fugace. C'est-à-dire, opportunité, il faut la saisir. Elle ne se représentera peut-être pas. Donc, envisager les opportunités en termes de structure, c'est un petit peu bizarre, quoi. Hein?
Donc, on a deux niveaux d'analyse qui sont articulés, mais assez maladroitement, dans le même concept. Hein, c'est-à-dire la perception subjective par des militants qu'il y a un coup à jouer, que c'est le moment de se mobiliser, et il y a les structures politiques. Il y a, est-ce qu'il y a possibilité de... Est-ce que c'est un État fédéral ou centralisé? Hein, ça, c'est une des variables utilisées notamment par Criési. La Suisse, c'est fédérale, la France, c'est centralisée, donc ouvert ou fermé. Bon, ok. C'est déterminant, mais c'est pas une opportunité. Ça, voilà. Donc il y a une difficulté à ce niveau-là.
Et je pense que voilà, c'est le problème, c'est que on n'a peut-être pas besoin pour saisir le contexte de quelque chose en termes de structure. Une opportunité, elle doit être perçue. Donc on en revient à une démarche subjective, c'est-à-dire c'est les perceptions. Hein, c'est les perceptions du contexte. Là, il y a un coup à jouer. Là, les étudiants sont déjà mobilisés. Peut-être que les cheminots, ils sont mobilisés. Ils ont mis le gouvernement en difficulté. Peut-être que c'est le moment de se mobiliser à son tour. Là, il y a peut-être un coup à jouer. Et ça, c'est fugace. C'est pas un problème de structure. Hein? C'est un problème de perception. Vous pouvez avoir des perceptions erronées. Vous croyez que la lutte allait être favorable, en fait, pas tant que ça. Hein. Bon, donc ça c'est premier ordre de reproche. Deuxième reproche, je dirais, c'est l'idée d'une opposition entre le système politique et son extérieur. Hein, c'est-à-dire, il y a les insiders du système politique. Les députés, les ministres, les décideurs. Et puis, il y a l'extérieur, il y a les outsiders, les challengers, hein, je reprends le vocabulaire des textes américains, les contestataires qui veulent faire pénétrer leurs revendications à l'intérieur du système politique. Et c'est plus ou moins ouvert, plus ou moins fermé. Les portes sont plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées. Bon. Première chose, c'est que cette. Étanchéité, elle n'est pas forcément évidente, c'est-à-dire qu'il y a de la porosité. Il y a des représentants des mouvements sociaux à l'intérieur du système politique. Alors, ça a été notamment montré dans le cas du mouvement féministe. Ah, vous avez des responsables, des députés, des ministres qui sont féministes, qui relayent les revendications féministes à l'intérieur du Parlement, de l'administration, etc. Hein? Donc, il y a le terme pas très élégant de fémocrate qui a été utilisé pour désigner voilà, les représentantes. Mais vous pouvez. On pourrait parler d'écolocrates, des représentants de l'écologie à l'intérieur du système politique, des revendications environnementales à l'intérieur du système politique. Hein. Donc c'est pas tant, et ah, c'est aussi une des difficultés, c'est pas tant une opposition de force hein, que des transactions, des passages d'un domaine à un autre, hein, du système politique aux mouvements sociaux. Et par ailleurs, on est dans une représentation très univoque et déséquilibrée des rapports entre mouvements sociaux et système politique. C'est-à-dire, c'est le système politique qui détermine la forme des mouvements sociaux, qui détermine leur stratégie, hein, selon qu'il est ouvert ou fermé. Bah, vous avez aussi des mouvements sociaux qui peuvent mettre en difficulté le système politique, le contraindre à plus d'ouverture, qui peuvent affecter la marche du système politique. En mai 68, en décembre 86, hein, le mouvement de Vaquer, contre la loi de Vaquer, le mouvement contre le CPE, le mouvement contre le plan Juppé, pour s'en tenir à des exemples français, ils ont quand même entravé la marche du système politique. Donc ce n'est pas aussi univoque que le présuppose cette représentation c'est la structure qui détermine si vous allez être pacifique ou violent dans vos manifs. Parce que c'est quand même beaucoup ça l'idée autour de structurer les opportunités politiques.
Alors, d'où voilà un regard critique sur ce concept qui apparaît comme lourd à manier, difficile à utiliser, très statique, très figé, et qui ne rend pas véritablement compte de la dynamique des interactions entre des contestataires et un gouvernement, par exemple, hein, avec des choses plus de l'ordre de la transaction, de la négociation, de l'échange de services, comme je l'ai dit, hein, expliquer l'engagement, ça n'explique pas grand-chose de l'engagement. Ça explique le succès ou l'échec des mouvements sociaux en fonction du contexte politique. Est-ce que le gouvernement, l'État est réceptif ou pas? Mais ça n'explique pas le fait que voilà, il y a des gens qui soient mobilisés pour le Freedom Summer en 1964. Donc ma perplexité, elle est là aussi. Autant Olson, avec toutes les réserves qu'on peut avoir, nous fournit une théorie de l'engagement sur du calcul, coût-bénéfice. Là, c'est pas l'engagement individuel, c'est le destin ou la forme des mouvements sociaux.
C'est pas une variable qui explique véritablement l'engagement au niveau individuel ou même de certains groupes sociaux plutôt que d'autres. Structure des opportunités politiques appliquées aux gilets jaunes, je sais pas ce que ça donne. Est-ce que la structure des opportunités politiques était ouverte ou fermée au moment des gilets jaunes? Ben, je sais pas. Elle est à la fois fermée, si on veut, lorsque on voit la répression du mouvement, et il y a un indice d'ouverture avec le grand débat. Mais c'est plus de la stratégie politique qu'un problème structurel. Et on peut poursuivre en termes d'opportunités. Bah, il y a des gens qui sont ralliés au mouvement des Gilets jaunes quand ils ont vu que ça montait en puissance. Ça pouvait aller de la CGT à l'extrême droite, hein, truc, en se disant, bon, bah, là, ils fragilisent quand même le gouvernement, c'est le moment d'amener aussi nos revendications. Oui. Mais là, il y a la perception d'une opportunité, mais ce n'est pas une question de structure.
Alors peut-être que l'idée sous-jacente, c'est de dire que bah, parmi les coûts, les risques de l'engagement, hein, les incitations sélectives négatives, il y a la réponse étatique, répressive. Une nouvelle fois, le fait que on tire avec des flashballs et des grenades de désencerclement sur des manifestants, c'est la réponse du système politique qui se traduit en anticipation d'un coût potentiel, d'un risque potentiel. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, ça confirmerait, si on prend le cas des Gilets jaunes en France, que la structure des opportunités politiques est fermée, avec cette réserve qu'elle n'est pas fermée de la même manière pour tous les mouvements. C'est-à-dire que les mouvements d'agriculteurs, par exemple, n'ont pas la même réponse policière. Ils peuvent être perturbateurs, mais bon, là, c'est plus une tradition de lutte où alors ça se fait un petit peu moins.
Pardon, oui. Excusez-moi, les zadistes, alors, peuvent trouver leur place ici dans cette...
Ben là, on va dire qu'il y a une structure des opportunités politiques fermées, puisqu'il y a, y a volonté de les évacuer, de... voilà, alors, c'est compliqué parce que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu des tentatives de, d'expulsion manu militari par, du camp qui ont été mises en échec. Il y a eu un harcèlement, une répression policière quand même assez forte, et puis ils ont fini par gagner. Bon. Alors, comment l'expliquer justement avec la structure des opportunités politiques? Bonne chance. Parce que l'attitude du gouvernement a été fermée pendant des années. Et puis, bah, finalement, ça s'est ouvert, mais alors ça tient à quoi? La configuration, c'est un nouveau gouvernement, d'accord? Donc ça, c'était sous Philippe, qui a décidé d'annuler l'aéroport. C'est pas simple, hein?
Et donc, on a besoin de concepts sans doute plus souples, mais c'est pour ça, enfin, Filleul, il a été un petit peu vite, il avait écrit un texte qui s'appelait « Requiem pour un concept ». Donc, qui était sur le concept de structure et les opportunités politiques. Je pense que le requiem, c'est peut-être un peu rapide, il n'est pas mort, mais il a été quand même beaucoup critiqué. Hein. Alors, Tarot et Charles Tilly ont essayé de le réviser il y a une quinzaine d'années, d'apporter des amendements, ils ne veulent pas le lâcher, mais je dirais, mais même dans la littérature américaine, où ça a été quand même très florissant pendant une bonne quinzaine d'années, structure les opportunités politiques est plus trop utilisée. Là.
Il est de moins en moins en usage. On a été très critiques, plusieurs, à l'égard de ce concept, qui est moins utilisé. Et qu'est-ce qu'il fait là, aujourd'hui, et pour expliquer l'engagement? Parce qu'il n'explique pas grand-chose de l'engagement. Il explique... Ok, hein, les formes mais, et les succès éventuels, mais pas le fait que des gens décident de rejoindre une ZAD, de prendre leur carte à ACT UP. Bon. Donc l'idée, elle est importante, hein, de prendre en compte le contexte. Donc ça, c'est voilà, c'est, je dirais, c'est l'idée à retenir. Hein, si vous rentrez dans le détail du concept, ça va être compliqué.
Hein. Le mouvement afro-américain aussi, dans les années 60, on pense qu'il y a une ouverture, et en fait, Martin Luther King, il se fait assassiner quand même. Donc, donc il y a toujours des balanciers, des mouvements dans un sens puis dans l'autre. Alors,
oui, mais... Là, c'est au-delà du leader lui-même, c'est la capacité à obtenir des avantages de la déségrégation, des condamnations de racistes, etc. Hein? Alors, le racisme, il reste toujours aussi enfin, très prégnant. C'est composite et il y a des formes de résistance, mais même les logiques de réponse aux mouvements sociaux, déjà, sont contrastées selon les mouvements. Entre quand vous avez le ministre de l'Intérieur qui manifeste avec ses flics pour réclamer plus de moyens, est-ce que la structure des opportunités politiques, elle est ouverte ou fermée à ce moment-là? Hein, quand c'est des infirmières contre le pass sanitaire, oui, c'est différent. Oui, mais justement, c'est la même structure des opportunités politiques, c'est le même gouvernement, c'est les mêmes institutions. Donc, qu'est-ce que ça explique finalement? Voilà. Donc, je pense que vous pouvez... dire qu'il y a une interaction entre l'État et les protestataires et qu'il y a des réponses, une réceptivité qui peut être différente de l'État en fonction aussi de la logique du jeu politique, que certains partis peuvent avoir intérêt à se faire le relais de certaines revendications et que le contexte joue, voilà, si on prend mai 68, quand même une fragilisation des institutions politiques qui favorise une remise en cause, sa remise en cause par tout un tas de mouvements sociaux dans les années suivantes, auxquels il peut répondre par la répression, mais ouais, il y a une évolution du contexte. Le contexte joue, mais le contexte, est-ce qu'on le saisit comme une structure? Ouais, c'est plus difficile.
Et du coup, il y a des travaux de recherche plus récents sur l'engagement politique?
Non, il y a plein de travaux. Je pense à... J'ai discuté hier avec une étudiante, là, Sophie Rétif, sur le genre dans l'engagement associatif, où elle étudie à la fois des féministes et des mouvements, des associations familiales très, très catholiques, conservatrices. Donc ça voilà, ça continue. Je pense ça commence à dater un petit peu, mais le travail de Florence Josua sur la Ligue communiste révolutionnaire, voilà, vous avez toute une liste. Hein,
Julie Pagis.
Oui, Julie Pagis sur les 68 arts également. Donc ça, continuer à travailler sur l'engagement, structure des opportunités politiques. Ça fait un petit moment que je n'ai pas vu d'article qui se réfère très fièrement à « je fais une étude de structure et des opportunités politiques ». Voilà, les trucs sur les gilets jaunes, ben voilà, j'avais oublié le... Bon, il y a eu toute une floraison de collectifs de recherche au moment de ça. Je pense notamment à Magali Della Souda qui a dirigé un collectif du côté de Bordeaux. Il y a eu des enquêtes... Vous ne trouvez pas de référence à la structure des opportunités politiques là-dedans. Vous trouvez une enquête pour quelles sont les propriétés sociales des gens qui rejoignent cette mobilisation en termes d'âge, de sexe, de diplôme,
de genre aussi.
De genre, ouais, mais de vote aussi. Est-ce qu'ils ont voté? Est-ce qu'ils sont syndiqués par ailleurs? Voilà, est-ce que c'est multi-engagement? Ah, donc c'est plutôt la dominante, c'est d'essayer d'articuler enquête par questionnaire pour avoir une représentation un peu objective des propriétés sociales des gens et de faire des entretiens pour savoir subjectivement quelles sont leurs motivations. Bon. Donc ça, c'est... Alors, on va dire que ça tourne un petit peu en rond parce que c'est les mêmes modèles de méthodes hein, d'analyse qui sont utilisées depuis pas mal de temps, mais... Pour l'instant, on n'a pas forcément trouvé mieux. Donc, à une époque, on faisait beaucoup des analyses de réseau. Là, quand j'avais participé aux enquêtes sur le mouvement altermondialiste, c'était de voir les gens, s'ils venaient seuls, avec qui, quels étaient leurs autres engagements passés et présents, s'ils venaient en tant qu'écologistes, en tant que militants d'attaque, en tant que... Donc ça permettait de faire des tableaux de l'étude de réseau. Mais structure des opportunités politiques, une nouvelle fois,